que vous ferez voir une invention toute nouvelle. C'est très rigolo, c'est épatant, oui, enfin bref. C'est un instrument en fer, en bois et en ficelle. Et on appelle ça un appareil de TSF.
La bande FM.
Septembre 2014. Je suis fraîchement diplômée et je suis un cœur à prendre. Je cherche le grand amour, le vrai. Tu vois, le genre de rencontre qui te fait changer de vie, qui te donne des papillons, des ambitions, qui t'ouvre l'esprit, qui te rend un peu plus libre. Le truc où tout à coup, t'as l'impression d'être compris. Et je t'ai trouvé. C'était incroyable. Je pouvais passer te voir à n'importe quel moment, sans prendre rendez-vous. Ça, c'était le plus fou. Je savais que je te trouverais, toi et ton envie de refaire le monde. Tu as nourri ma curiosité, entretenu mon désir. Tu as compris ma colère, tu as porté ma voix. Tu m'as appris. Je me sens meilleure depuis qu'on s'est trouvé. Ça fait 4 ans. Pour ça, merci Radio Campus Paris, je t'aime.
La bande FM, une émission qui capte bien la radio, un dimanche par mois sur Radio Campus Paris.
On est dimanche 21 novembre, bienvenue dans la bande FM. La bande FM, c'est un prétexte, un cadre pour réunir la petite famille de radiophiles. On ne sera pas toujours exhaustif, pas objectif, sûrement pas complet, mais on sera là. Et aujourd'hui, c'est une émission un peu particulière parce qu'on est au bar commun. Ce bar associatif du 18e arrondissement qui nous accueille. Et je suis avec Elsa.
Salut Léa.
Qui a une très jolie voix de Jeanne Moreau. Tu vas bien?
On peut dire ça comme ça, ouais. Ne pas avoir de voix, c'est pas très pratique pour faire de la radio, mais je vais essayer de t'épauler en tout cas.
Super. Et on a donné rendez-vous à des copains pour parler radio associative, de leur joie et de leurs difficultés. Alors avec nous, il y a Marion. Donc toi, tu es membre du conseil d'administration de Radio Fréquence Paris Pluriel.
Exactement.
Et tu participes à l'émission Constroy, dans laquelle tu causes punk rock le dimanche de 18h à 20h.
Exactement.
Tu es venue avec Ludo, qui est aussi membre du CA. Tu es bénévole et animateur de l'émission Mode d'emploi.
Absolument.
On a aussi avec nous deux membres de Cause Commune. Donc Olivier Gréco, toi tu es le fondateur de Cause Commune.
Ouais.
Voilà, on viendra tout à l'heure un petit peu sur la naissance de la radio. Et Paul, toi, tu es membre de Libre à Toi, membre plus exactement de la direction collégiale. Et donc, Libre à Toi, c'est l'asso qui porte Cause Commune. Et enfin, on a Fanny, qui est présidente de Radio Campus Paris. Voilà. Alors, donc Olivier, toi, tu es le directeur d'antenne de Cause Commune. Est-ce que tu as en tête un moment représentatif de ce que peut être la radio associative ?
Oui, ce moment assez particulier où, en tant que fondateur d'une asso qui n'avait pas prévu d'être une radio associative à la base, on se retrouve sélectionné par le CSA et qu'on se retrouve à se demander comment on émet une radio sur la FM en fait.
Donc on peut peut-être rappeler votre histoire, vous êtes sur la FM depuis pas longtemps du tout.
Depuis le 20 novembre 2017.
Bienvenue, enfin c'est pas nous la FM encore, mais bienvenue sur la FM avec nous. Et qu'est-ce qui vous a poussé à fonder cette radio et à se dire allez on y va, on va monter une radio associative en 2017?
Alors c'est pas du tout ce qu'on s'est dit en fait. À la base nous on a juste monté une association qui avait pour vocation d'être un média mais pas nécessairement une radio en réalité. Une asso qui avait trois branches, dont une branche était une web radio. Alors pourquoi une web radio ? Parce qu'on venait, pour la majorité des fondateurs, des co-fondateurs de Libre à Toi, l'asso donc, de la radio associative, mais pas dans la direction, pas au CA, juste en tant que mec derrière, mec et nana d'ailleurs, derrière le micro avec son casque, et ce qu'on avait fait pendant quelques années sur une radio associative parisienne, c'était essentiellement de l'antenne, mais pas du tout les arcanes de la radio, comment ça marchait, comment on avait des autorisations, c'était pas notre truc. Et en fait, au bout de 6 mois de production de notre web radio, il se trouve qu'on est tombé sur un appel à candidature du CSA, c'était en juillet, qui disait en gros, et c'est triste, une radio est morte, une nouvelle peut naître, c'est 93.1, c'est une demi-fréquence, voilà, c'est ouvert. Et donc on s'est regardé tous, on était 6 à l'époque, co-fondateur de l'asso, et on s'est dit est-ce qu'on y va ? Et je pense que j'ai été le seul à dire allez, on y va. On ne savait pas comment monter un dossier, on ne savait pas comment ça marchait, voilà. Mais pas grave, on l'a fait. On a déposé notre dossier fin septembre 2016 et on a été sélectionné en mars 2017. Voilà.
Vous, Radio Fréquence Paris Pluriel, vous avez 25 ans.
Alors, Radio Fréquence Paris Pluriel, c'est en fait... Il y a peut-être une histoire commune, mais en fait, elle est beaucoup plus ancienne que ça. Fréquence Paris Pluriel, donc, c'est une radio associative qui existe depuis 1992. On vient de fêter nos 25 ans. C'est une radio qui s'est montée suite à l'ouverture des ondes, suite aux radios pirates et à l'ouverture des ondes donc sur la bande FM.
Ça, c'est en 1981, c'est la fin du monopole d'État sur les radios et la télé.
Exactement. Et donc, à l'époque, il y avait un certain nombre de collectifs, d'associations de Paris et de la banlieue qui étaient assez actifs, des militants, et qui avait pris cet outil qui était la radio d'une façon un peu illégale. Et entre autres, il y avait une radio qui s'appelait Radio Tomate, qui faisait déjà tourner avec quelques émissions, quelques potes. C'était essentiellement des émissions, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, mais des émissions politiques, notamment sur le milieu carcéral, les violences policières, le racisme, et ainsi de suite, les problèmes... liés aux banlieues, surtout. Et donc, quand est arrivée cette opportunité pour ouvrir une vraie radio, enfin, entre guillemets, une vraie radio avec, effectivement, quelque chose d'officiel, etc. Donc, le dossier a été lancé. Et donc, Fréquence Paris Pluriel est née sur le 106.3, donc en 1992. Et depuis 1992, elle ne s'est jamais arrêtée. Et voilà, on est en 2017 et on est encore là.
2017, c'est les 20 ans de Campus Paris, Fanny.
2018, pardon. Parce que sinon, ce serait trop dommage.
Et oui, c'est vrai, 2018.
Oui, c'est les 20 ans de Radio Campus Paris, qui est donc une vieille bête pleine de jeunes, paradoxalement. Du coup, on est tous en permanence héritiers d'un truc bidouillé par deux étudiants que moi, je ne connais même pas, d'ailleurs, qui ont, selon l'usage, évidemment, commencé dans leur cave. Et qui est enregistré sur cassette. On en a retrouvé tout un paquet qu'on a numérisé pour pouvoir diffuser ça à l'antenne pendant nos 20 ans et qui ont obtenu progressivement une fréquence FM, un hébergement pour installer un studio avec l'aide de la mairie. Et sur une vingtaine d'années, on a construit comme ça une équipe salariée. On a musclé notre grille de programme, enrôlé tout un tas de bénévoles. On a déjà une petite histoire derrière nous.
C'est quoi pour vous une radio associative, enfin, l'esprit radio associative déjà, est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il y a un truc commun entre nos trois radios ou pas? Enfin, qu'est-ce que c'est pour vous une radio associative, au-delà du fait que c'est une association qui fait de la radio?
La radio associative, moi, c'est un peu le moment où à campus, le soir, je viens vers 18h30 et à 18h45 arrive dans un local quasiment vide une horde de 20-30 étudiants qui viennent pour commencer à sortir leurs émissions de la soirée. Et tout le monde a des clés USB et des sons un peu plus ou moins pourris, accrochés dans des clés ou pas, et que tout le monde se rentre dedans, qu'il nous manque toujours un ordinateur, une pièce, qu'on finit toujours par avoir 15 personnes assises par terre, et qui ont tous une opinion sur la façon dont il faudrait qu'on renouvelle notre stock de matériel ou pas, qu'il faudrait le lendemain qu'on est dans un bar pour faire une émission en public ou pas, et que d'ailleurs ils connaissent sûrement un mec qui d'ailleurs justement s'occupe de tenir un label de musique, mais qui fait aussi de la boulangerie participative, et qu'on pourrait de cette façon-là monter un nouveau réseau avec une nouvelle association quelque part. Le radio associatif, c'est un côté un peu fourmillant. Oui, qui fourmille, qui bourdonne, ça a de la vie.
Et un côté amateur aussi, non? Tu disais des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas, on sait pas trop.
C'est un peu compliqué ce mélange, cet écart entre amateur et professionnel. Disons que c'est des structures d'apprenants qui s'assument et qui tentent de faire des trucs un peu différemment sans se complexer de pas être dans les standards attendus.
Olivier, t'es d'accord avec ça?
Ouais, je suis complètement d'accord. Alors c'est vrai que le fait d'être une radio associative, c'est avant tout être un média associatif. Donc déjà, ce qui nous qualifie aujourd'hui, c'est la liberté qu'on peut avoir dans la façon qu'on peut traiter ou pas des sujets. Et ça, c'est un élément qui, pour nous, est très important. Après, effectivement, il y a l'aspect expérimental On peut se permettre, et on l'expérimente, nous, sur notre grille depuis le 20 novembre dernier, alors que quand on a déposé notre dossier au CSA, on avait une grille super calée, etc. Mais que un an plus tard, parce que les délais sont les délais, des gens sont partis, d'autres sont arrivés, etc. Et il a fallu un peu recomposer sur le tas dès la publication de notre autorisation, bah, on se permet effectivement de tester des formats, de dire aux gens qui nous proposent des émissions, bah, moi j'ai envie de faire ça, je ne suis pas un professionnel de la radio, comment ça marche, comment ça se cale une émission de radio. Alors nous on a une petite expérience quand même sur la façon de produire un contenu. Maintenant sur les formats, bah, tout est open. Donc on a eu des premiers numéros qui sont transformés en deuxième numéro qui ne ressemble pas au premier. Voilà.
Tu veux compléter ?
Non, mais juste, il me semblait que dans l'expression radio associative, il y a deux mots qui appartiennent au passé et dont le futur aura, je l'espère, du mal à se passer. C'est-à-dire que radio, c'est un média du XXe siècle, c'est un média qui, a priori, beaucoup ne donne pas cher de sa peau. Associatif, n'en parlons pas. On sait bien que voilà, le futur des financements publics n'est pas l'associatif, que le fait de pouvoir mener des projets qui n'ont pas forcément d'arrière-pensée économique, c'est pas non plus dans l'air du temps. Et pourtant, on peut penser que le modèle de la radio, c'est un support, un média particulièrement bien adapté pour raconter des choses simples et mettre en valeur des choses simples dont on a besoin aujourd'hui. Et l'associatif est également un modèle dans lequel on peut croire pour repenser un peu les choses, mais encore faut-il justement renouveler tout ça.
On parlera un petit peu plus tard justement du côté dépassé des radios associatives, parce qu'effectivement on vient d'une histoire de la radio libre, tout ça, et aujourd'hui, on peut se poser plein de questions sur l'avenir des radios associatives, vu le contexte politique, vu l'évolution des technologies aussi. Mais avant ça, je voulais vous poser une question sur les missions de la radio associative, parce que officiellement, les radios associatives, en tout cas pour toucher certains fonds, ont des missions. On n'est pas obligé d'ailleurs de vouloir toucher les fonds de l'État, mais... Mais est-ce que pour vous, la radio associative a une mission sociale, j'entends ? Marion ?
En ce qui concerne Fréquence Paris Pluriel, en tout cas, c'est vrai que la mission sociale, c'est quelque chose qui a été mis en avant et dès le début. L'idée étant que c'était ouvrir un espace, qui soit un espace public, qui soit accessible au plus grand nombre. Parce que la radio, finalement, même si elle évolue, c'est quand même un outil que tout le monde possède, qu'on peut facilement allumer, éteindre, écouter la radio. C'est quelque chose qui ne demande pas beaucoup de moyens, etc. Donc ça permet de toucher un grand nombre. Et l'idée étant que sur ces radios, celles dites associatives, dans le cas de FPP, c'était bien l'idée de proposer sur les ondes un discours, proposer des sons qu'on n'entend pas ailleurs sur les autres radios qui, la plupart du temps, nous emmerdent, que ce soit les radios commerciales, c'est les pires, qui sont de pire en pire d'ailleurs. Et après, il y a les radios d'État, sur lesquelles on pourrait aussi avoir un certain nombre de reproches à faire. Et il était important que, notamment par rapport à la mission sociale, mais surtout la mission d'information aussi, qu'il y a un espace où des non-professionnels et des gens sur le terrain qui sont là, ils sont capables de témoigner d'une information. Et d'avoir un point de vue, d'avoir un regard sur une information, sur un phénomène, sur un mouvement musical, etc., qu'on n'entend pas ailleurs, qu'on n'entend nulle part ailleurs, et jamais de toute façon sur les radios commerciales. Et cette voix-là, elle est importante et nécessaire pour la pluralité. On est dans un pays où on a le droit à la pluralité, on a le droit d'avoir un espace public sur lequel, bah, effectivement, des non-professionnels vont pouvoir parler de ce que tous les autres médias parlent à notre place, très souvent.
On va écouter un petit extrait que vous avez apporté, Marion et Ludo. C'est leçon numéro 1.
Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade.
FPP 106.3.
C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi.
Fréquence Paris Pluriel.
Tu es un esclave, Néo.
Avec FPP, vous avez le choix.
N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus.
Regarde, Larry! Tu vois ce qui se passe? Hein? Tu vois ce qui se passe, Larry?
Il se passe que FPP a besoin de vous.
La panique, c'est un love.
Et oui, chers auditeurs, chères auditrices, les temps sont durs pour les radios libres.
Où est le fric, espèce de sale punk?
Tu vois ce qui se passe quand on veut niquer les gens?
Avec les politiques d'austérité et le désengagement de l'État, les subventions pour la radio ne cessent de baisser.
Eh ben, vu les dommages occasionnés, on va passer à la réparation du préjudice. Alors vous videz vos poches et vous balancez les portefeuilles. Allez!
Pour faire un don, rendez-vous sur le site www.rfpp.net dans la rubrique « Pour nous soutenir ».
Quand j'ai du pognon dans la caisse, quand il y a plein de pognon dans la caisse, alors là, ça va. Moi, ce qui compte, c'est le pognon.
Donc là, on a entendu l'appel au don de Radio FPP, mais on entend aussi une forme, un style. Enfin, c'est une radio très militante. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, être une radio militante
Une radio militante dans le sens où les émissions qui sont sur la grille de FPP, il y en a effectivement beaucoup, Fréquence Paris Pluriel. Donc on pourrait reparler de cette histoire de pluralité auquel on tient depuis longtemps. Mais quoi qu'il arrive, ce sont des gens qui ont un engagement. Qui ont un engagement soit sur le terrain de la culture... et qui vont effectivement proposer peut-être d'autres idées de sorties culturelles que celles qu'on nous balance partout. Après, on a un très grand nombre d'émissions qu'on appelle plus les émissions politiques et sociales. Et celles-ci, elles s'attaquent effectivement à tous les pans de la société qui demandent réflexion ou demandent peut-être pour certaines vraiment une très grande contestation par rapport à ce qu'on nous propose. Et surtout, une autre voix. Donc, c'est vrai que sur FPP, il y a quand même, et on y tient, une grande dominante, effectivement, de politique, hein, dans le sens large du terme. Voilà.
Cause commune, vous définissez comme la radio des communs.
Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire, la radio des communs?
Ouais, alors, déjà, je voudrais juste revenir sur un... Voilà, une formule qui a été utilisée par... j'ai oublié ton prénom. Margot ?
Marion.
Par Marion, qui parlait en fait des radios de service public, a parlé de radio d'État. Alors, j'entends... J'entends la saillie, hein, y a pas de souci. Mais je reviens du coup à ta question initiale qui est quelle est la mission de la radio associative? Moi, je pense que justement, c'est de restaurer l'idée d'un média de service public, et là, en l'occurrence, de service public de proximité. Et c'est vraiment, nous, ce qu'on a envie de représenter dans Cause Commune, une radio de service public de proximité. En ce sens, on ne va pas se définir comme une radio militante ou une radio de lutte. On va juste se définir comme une radio généraliste, associative, de proximité, qui a une mission de service public. Ça va déterminer la façon dont on va appréhender les angles selon lesquels on va aborder les différents sujets qu'on va mettre à l'antenne et qui vont constituer notre grille. Donc je reviens maintenant à ta question concernant la radio des communs. Alors en fait, c'est un effet d'opportunité de s'être présenté. Oui, non, mais soyons très honnêtes aujourd'hui. Libre à toi, quand on l'a fondé, on s'est présenté comme la voie des possibles. Par la voie des possibles, nous, on l'entendait comme la voie des alternatives. Et en fait, on s'est rendu compte que ce que nous, on appelait alternative, c'était généralement ce qui était repris par des médias de type de réinformation. ceux qui nous vendent de la post-vérité, ceux qui nous font de la fake news. Et on s'est dit, en fait, alternative, c'est pas le bon mot. Et on n'est pas des spécialistes des communs, on n'appartient pas à la base au mouvement des communs, mais un petit peu comme Monsieur Jourdain, on faisait du commun sans en avoir l'air. Et donc, on s'est dit, bah, en fait, ce qu'on fait, notre projet, ce qu'on a envie de valoriser, c'est ce que certains autorisés appellent les communs.
Du coup, la question, c'est qu'est-ce qu'on met en commun ?
Oui.
Qu'est-ce qu'on met en commun ? C'est bah, avant tout, justement, un média qui soit participatif. C'est aussi des locaux. C'est voilà, avoir un lieu où on puisse se réunir. C'est aussi parler à travers les émissions de Libre à toi, de bah, ce qui peut sortir de la propriété commerciale à proprement parler. Donc ça peut être les communs de l'internet, les communs du logiciel, ça peut être les communs de la musique, ça peut être les communs dans la ville, ça peut être les communs de la connaissance. Donc voilà, donc finalement ce thème de la radio des communs, ça permettait de regrouper sous une même bannière beaucoup de choses dont on voulait parler.
On va écouter ce que vous nous avez apporté pour découvrir Cause Commune.
Bonjour, on te rencontre quasiment tous les soirs sur Place de la République. Tu colles tes affiches.
Oui, je colle mes affiches. Je suis également avec Libre à toi, une radio qui défend le logiciel libre. J'ai collé 8 pages, toutes les paroles de salut à toi.
Salut à toi le polonais, salut à toi le communiste.
Donc voilà, moi je colle des affiches, je pense que chacun essaye d'agir comme il peut. Moi j'aime bien faire ça.
C'était en direct de... On n'est pas encore sur la FM, c'est dommage, mais ça viendra.
Cause commune. 93.1.
Dans ce son que vous n'avez pas entendu, mais que j'ai entendu au casque et qu'on entendra dans le podcast, il est l'idée effectivement du commun. Fanny, est-ce que tu... ça te parle, cette idée de commun, de mettre des choses en commun? Est-ce que c'est aussi une mission de campus?
Ah, clairement. Oui, bah, de toute façon, un des objectifs quand même historiques de campus, c'est un peu la super tarte à la crème de la création d'associations. C'est à la base, l'idée, c'est d'être avec les copains pour faire un truc chouette. Là, en l'état, les copains, on en a 300. En interne, se rajoutent tous les gens qui viennent un peu tous les jours nous raconter, leurs initiatives, leurs créations, leurs arts, leurs études, leurs recherches, les conclusions des derniers travaux qu'ils ont faits, du dernier projet collectif qu'ils ont monté. À la fin, campus, c'est quand même une espèce d'énorme archipel qui a aussi pour vocation indirecte, autour d'un dialogue, autour d'un discours, autour de moments d'échange public par la diffusion, de réunir des gens autour d'une table et autour de micros et de créer de la coprésence, de l'échange, du lien social. On est vraiment sur la création de communautés au sens étroit, c'est-à-dire les gens qui physiquement seront là, qui vont participer à la création ou participer au contenu en venant nous déposer un discours. Mais on est aussi dans une démarche on se voit. On est sur des sujets assez basiques, mais qu'on a tendance à effacer, parce que c'est quand même une des critiques principales qu'on peut faire aux médias qu'on a cités déjà, autant commerciaux que services publics, c'est que... on est sur une espèce d'entre-soi un peu décollé de ce qu'on peut, nous, avoir envie d'échanger avec nos contemporains, quoi. En plus du fait que, nous, une de nos vocations est initiale. Non, mais à campus, on adore les enfants, ça tombe hyper bien. C'est qu'on cherche quand même à outiller les gens pour à les former. On est une radio-école pour que chacun puisse porter un discours et s'autoriser à être dans une création, dans des essais, dans du bidouillage qui l'autorise aussi et qui l'encourage à s'insérer dans des mouvements collectifs.
Et en tout cas, ça fait 20 ans que ça dure.
Bonjour, nous ne sommes pas sur LCI, nous ne sommes pas sur Radio France, nous ne sommes pas sur la nouvelle chaîne Info, et pourtant Radio Campus vous proposera quotidiennement, par tranche horaire, de l'information. Mais pas n'importe quelle information, de l'information étudiante, de l'information de proximité, de l'information que vous êtes utile. C'est pas Pernod, c'est pas le trésor de TF1. Alors qu'est-ce que c'est l'information sur Radio Campus Paris ? C'est de l'information qui vous est destinée, c'est de l'information qui est traitée par des étudiants pour des étudiants. Qui mieux que les étudiants pour connaître leurs besoins, leurs envies, leurs demandes. Ce sera donc de l'information pour sortir, pour comprendre, de l'information pour travailler, parfois.
On forme plein de bénévoles à faire de la radio, plein de gens qui ont envie de faire de la radio, des jeunes, des moins jeunes, voilà, c'est la magie de Radio Campus Paris.
J'ai une idée, on va tous imiter en même temps un bruit, et comme ça chacun va l'interpréter à sa façon et ça va faire une sorte d'orchestre sonore.
D'accord.
Attention, si premier bruit qu'on va tous imiter en même temps, le bruit du pas dans la neige. Allons-y.
Il faut aussi savoir décompresser et s'éclater. Alors c'est tout ça l'information sur Radio Campus Paris. C'est comme cette présentation, frivieuse, emballée, plein de passion, et c'est comme ça qu'on est.
Prenez note que l'année prochaine, nous avons 20 ans, et que le programme va être fat.
Radio Campus Paris.
Alors voilà, le son qui crachouille, c'était un son qui date quand même de 20 ans, donc désolé si ça faisait des froufrous dans vos oreilles.
Un de nos sons repêchés sur cassette qui traînait au fond d'un tiroir qu'on a renumérisé pour le respect aux ancêtres, tu vois.
Qui fait presque un peu RTF.
Voilà. Bon. On n'était pas encore là sur une dimension un peu années 80 à Libération, mais on a rattrapé tout l'héritage et puis on s'est collé à la bande FM sans trop de fatigue, hein, mais c'était un peu ça l'ambiance. Et là, voilà. Ça semblait un peu très très loin de se dire qu'à la base, sur campus, on enregistrait sur un magnétophone, comme ça, sur une bande, et après, ils le passaient sur Internet.
Marion, tu lèves les sourcils.
Donc FPP, quand tu as commencé, bien évidemment, c'est les cassettes. Et c'est... Bon, bien évidemment, depuis, le matériel a évolué. Et maintenant, je dis, mais comment on faisait à l'époque des piles de cassettes qu'il fallait caler, enfin bon, voilà, etc. C'est vrai.
Vous imaginez ça, post-commune?
En fait, on imagine ça parce que on est tous de la génération... Enfin, on était ados en 1981, enfin, dans les années 80. Et c'est comme ça qu'on imaginait la radio, en fait. Qu'est-ce qu'il y a?
Fanny n'était pas... Était
non, mais moi, oui. Enfin, voilà. Enfin, les fondateurs de Cause Commune. Et toi non plus.
Ouais. Tu es tous de la génération.
Non, mais je dis nous, Cause Commune. OK, OK, je suis vieux. Et donc, du coup, oui, on a connu ça, les cassettes, ça. Et on a vu naître la radio, et c'est comme ça qu'on l'imaginait. Nous, quand on a commencé à faire de la radio, effectivement, on était sur du MP3, des consoles. Enfin voilà, on calait pas nos sons, on avait des logiciels pour ça, on n'avait pas de truc là où il fallait couper. Voilà. Et c'est dommage d'ailleurs, je trouve ça sympa.
Le papyrus sur lequel on écrivait le déroulé de l'émission.
Mais du coup, je regrette, tu vois, qu'on n'ait pas entendu le son tout à l'heure, parce que franchement, je me suis fait chier hein, à faire un truc avec mon super logiciel libre.
On le réécoutera sur les internets.
Bon, à l'époque, on se posait moins la question. Hein, c'était la cassette, elle passait pas, on l'avait pas mis sur la bonne face, ah mince, c'est pas parti dans le bon sens. Ça cassait aussi les bandes. Enfin voilà, c'était quelque chose qui était.
Les fichiers aujourd'hui, ils cassent aussi.
Il y a pas de bug, jamais.
Ça n'existe pas, c'est un mythe. Voilà.
Et la qualité du son aussi n'était pas forcément là. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, mais comment dire. Je reviens sur l'histoire du commun. Dans le Fréquence Paris Pluriel, si je passe pour le côté Fréquence Paris Pluriel, le terme commun, c'est pas quelque chose qui est récurrent. Mais par contre, le terme pluriel, auquel on est quand même vachement attaché. Sur FPP, en fait, elle s'est fondée sur des histoires de lutte au départ. Et bon, petit à petit, voilà, la radio s'est enrichie, etc. Et c'était toujours l'idée du pluriel, c'est-à-dire la rencontre au sein du projet commun qui est FPP, de regrouper les gens en fait, d'horizons extrêmement différents. On a des émissions qui vont être prises en charge par des gens qui sont voilà, de la banlieue, etc. Et par ailleurs, on va avoir d'autres émissions, les gens qui ont fait des études, qui ont une certaine culture. On a aussi, et c'est quelque chose sur lequel on tient et on essaie de tenir toujours depuis le début, et ça a apparu une évidence quand FPP s'est monté, l'histoire du pluriel aussi, c'était aussi donner la parole à ceux qui ne l'avaient jamais et qui pourtant existent, et, enfin, vivent sur des territoires, sur des quartiers, c'est les communautés étrangères. Et ça, sur Fréquence Paris Pluriel, on les a toujours. On a des émissions qui sont réalisées par les communautés étrangères et qui vont nous parler de leur pays, de leur culture, de leurs soucis, de leurs problèmes qu'ils rencontrent, de racisme, d'autres, etc. Et c'est autant par rapport à Campus, on a quelque chose qui est plus fédéré autour de, on va dire, un certain type de personnages. Chez Fréquence Paris Pluriel, on a vraiment des gens qui sont piochés d'horizons très différents, avec des vécus très différents. Et qui se croisent, autour de ce projet commun, de cette radio plurielle.
Donc, pour ceux qui nous rejoignent, Fréquence Paris Pluriel est pas mal attachée au terme de pluriel. Cause commune est plutôt attachée au terme de commun. Et à la surprise générale, Radio Campus Paris est un peu attachée à l'idée de campus, vous voyez. Oui, nous, on a quand même une identité forte, qui est une identité jeune étudiant. À savoir que dans la réalité, on a quand même un point qui est important dans notre population, qui est qu'on a plein d'étudiants et plein d'anciens étudiants. Et aussi plein d'individus qu'on associe, d'individus plus ou moins louches, en fonction du type de programme mené, qu'on associe, parce qu'on fait aussi beaucoup d'éducation populaire, qui est aussi l'occasion pour nous de sortir autant que possible de nos murs. On a aussi, pour ça, il y a quelques années, investi dans un super studio mobile qui nous permet de faire un maximum de ce qu'on appelle des HLM, des hors les murs donc, avec l'idée qu'on va... par exemple, à la Goutte d'Or tous les ans pour faire la fête du quartier avec les gens du coin, les associations, qu'on essaie de semer un maximum les compétences et les connaissances du jeune radio pour accompagner aussi les créations de petites web radios, de radios locales. On travaille avec des antennes jeunes. On s'est associé aussi avec une école de français de langue étrangère qui travaille avec des jeunes réfugiés avec lesquels on monte des projets hyper, hyper chouettes qui associent l'apprentissage du français parlé avec... l'apprentissage média ou l'utilisation un peu de radio de base et qui nous permet nous aussi systématiquement de mixer les publics qui ont clairement en commun le fait d'être des jeunes arrivés dans le monde adulte, voire des jeunes arrivés à Paris, parce que c'est aussi pour ça que Campus attire beaucoup de gens, c'est qu'on fédère des populations d'individus relativement isolés, parce qu'en l'état, en fait, on est tous des nouveaux Parisiens qui arrivons à Paris. C'est une grosse bande de provinciaux qui a commencé à venir ou trouver un premier job ou faire leurs études ici et qui trouvent l'occasion de se regrouper autour de ce projet collectif et de ce projet commun. Pardon, j'ai utilisé votre mot. Un projet collectif, un projet campusien.
Est-ce que vous prêtez votre mot?
Non, mais justement, on revendique pas.
Ah, justement, c'est la logique.
Non, non.
On fait une petite pause musicale et on revient juste après pour continuer ce débat.
C'est bien la première fois que j'entends ma voix en dehors de moi, dans la radio. Je ne me reconnais pas, je ne sais pas si j'aime ça, mais regarde tout ce qu'on peut faire dans la radio.
On joue tous la même chanson.
C'était dans la radio de Jacques.
La bande FM, une émission qui capte bien la radio, un dimanche par mois sur Radio Campus Paris.
On est toujours dans la bande FM au bar commun. Je n'ai toujours pas beaucoup de voix, mais je vais essayer de parler. Alors la radio associative, on l'a dit, c'est des gens non professionnels, c'est des bénévoles qui font de la radio. Mais dans beaucoup de radios associatives, il y a aussi quand même quelques professionnels qui sont là pour structurer. À Radio Campus Paris, je le sais puisque j'en fais partie, il y a 5 salariés. À FPP, est-ce que vous avez aussi des salariés?
Oui, on a des salariés puisque, enfin bon, à moins que tout le monde soit bénévole et que la radio tourne toute seule que par des bénévoles, il y a effectivement des postes clés auxquels on ne peut pas tellement échapper et qui peuvent être pris en charge que par des gens qui sont là non-stop du matin au soir, etc. Donc effectivement,
quel
FPP, on a des salariés. On a simplement pour la gestion de l'administratif de la radio. Voilà, quelqu'un qui est à l'administratif, qui gère l'administratif de la radio. Et après, on a 3 personnes qui sont chargées du suivi d'antenne. Donc, qui sont là du matin jusqu'au soir 19h et qui vérifient que les programmes passent bien au bon moment, qui changent un micro dans les studios quand il est cassé, etc. Et puis, la 5e personne, nous, qu'on a à FPP, c'est une personne qui est chargée de la réalisation de l'agenda de la radio, c'est-à-dire une émission quotidienne d'une demi-heure, de midi à midi et demi, et qui va donner donc les infos, l'agenda du jour sur les événements de la journée. Et qui est chargée donc la réalisation de cet agenda d'une demi-heure. C'est la seule personne salariée sur l'émission, sur une émission. Voilà.
Donc 5 salariés à FPP, 5 salariés à Campus. À Cause Commune, je ne sais pas si vous avez déjà des salariés.
On en a 1000.
Comment ?
On en a 1000.
1000 salariés, waouh ! Comment vous faites ?
C'est pas associatif, ça.
Non, en fait, Cause Commune n'a pas encore de salariés. Et en fait, sur le budget annuel première année, on n'avait pas prévu de salariés. Enfin, voilà. On avait budgété sur 3 ans, les salariés arrivaient...
Nos objectifs.
Ouais. On est dans les objectifs, absolument. Les salariés arrivaient en fait en deuxième année, où on devait avoir 2 salariés, qu'on envisageait comme des contrats aidés, donc c'est raté. Hein. Donc on va revoir nos plans, du coup.
C'est aussi pour ça que je lance le sujet.
Hein. J'entends bien, mais c'est pour ça que je prends ta perche, voilà. Voilà. Donc aujourd'hui, non, Cause Commune fonctionne avec ses 6 permanents bénévoles en fait, dont chacun assure l'une des fonctions, missions clés de la radio. Paul est au développement économique, stratégique, relationnel, etc. etc. Moi je suis un peu à l'orchestration de l'ensemble. On a une graphiste webmaster qui est en train de nous préparer le site de Cause Commune, puisqu'avant on était Libre à Toi et qu'il n'y avait pas vraiment de site radio, donc là on est en train de construire le site radio. On a quelqu'un qui lui s'occupe essentiellement de tout ce qui est infrastructure, réseau, technique. C'est lui qui assure que l'hébergement de nos sites qu'on administre nous-mêmes, je parle des serveurs, se passe bien, etc. etc. Ça c'est sur les fonctions clés. Et puis il faut savoir que Cause Commune, il y a à peu près un mois, on était 6. Depuis un mois maintenant, on est plus d'une trentaine. De bénévoles, de producteurs d'émissions qui arrivent avec leurs propres équipes, etc. Donc voilà, les choses se construisent. On est un peu à vue, vraiment, sur la façon dont ça va exister dans 6 mois.
On est un peu à vue, mais toujours ouvert à de nouvelles propositions.
Absolument.
Alors je le disais, si je lançais le sujet des salariés, bien sûr, c'était pour parler des contrats aidés, puisqu'à Campus, on a des contrats aidés. À FPP, vous avez des contrats aidés.
Et d'ailleurs, on n'en aura pas.
Voilà, c'est ça. Bah, nous, on n'en aura bientôt plus. Et non, mais comme on le sait, le gouvernement a gelé les contrats aidés. Et à FPP, vous avez lancé une pétition unitaire des radios associatives, qu'on a signée d'ailleurs, voilà, pour dire que nous ça aussi. Nous met bien dans l'embarras quand même.
Ce qu'il faut savoir, c'est quand même que dans l'idéal, ça serait bien que les contrats aidés n'existent pas. Voilà. Faut bien remettre les choses à leur place. Y a eu effectivement, lorsqu'il y a eu l'annonce du gel des contrats aidés, beaucoup d'associations et autres qui se sont insurgées contre ça, et nous entre autres. Mais il faut quand même remettre les choses à sa place, c'est-à-dire que les contrats aidés, c'est vraiment la miette de la misère dont malheureusement on est obligé de se servir pour pouvoir fonctionner. L'idéal, ça serait que on puisse, nous en tant que radio associative, pouvoir embaucher 3-4 salariés qui puissent faire tourner la radio sans qu'on puisse avoir recours à ces contrats de merde. Parce qu'il faut bien le dire, c'est des contrats de merde qui sont mal payés. Actuellement, jusqu'à dernier état des choses, un contrat aidé, après ça dépendait parce qu'il y avait des différences selon les départements, machin, etc. Mais en fait, c'était un contrat de 20 heures hebdomadaires, payé au SMIC, ça veut dire qu'à la fin du mois, le salarié a 650 ou un peu plus, 80 euros. Ce qui permet sur Paris de même pas se payer une piole ou quoi que ce soit. Donc ces contrats-là, si on pouvait les éviter, on le ferait. Si je prends l'historique de Fréquence Paris Pluriel, il y a eu toute une époque où on avait des contrats aidés qui permettaient le suivi d'antenne, le suivi de l'administratif, de la radio, etc. Et on n'avait pas de contrats aidés. C'est-à-dire qu'on avait financièrement les moyens de payer des salariés, entre guillemets, normaux. Voilà. Et l'état des choses s'est tellement dégradé d'un point de vue des finances, etc., que... Au bout d'un moment, il y a quelques années, effectivement, on a dû avoir recours à ces contrats aidés parce que financièrement, on ne pouvait plus assumer des salaires. Voilà. Et on aimerait bien, donc là, je pense que c'est un peu utopique dans le monde dans lequel on avance, on aimerait bien, effectivement, pouvoir aujourd'hui proposer à un salarié de venir bosser à FPP 20 heures, mais pas au SMIC, mais pas des trucs de rafistolés.
Fanny, là-dessus.
Oui, alors deux, trois éléments, un peu de contexte, pour dire d'abord que une radio, à partir du moment où une radio de flux, c'est-à-dire par opposition à une radio de podcast, une radio de flux qui émet en permanence toute la journée et qui de surplus émet en FM. C'est pas une fusée, le machin, mais ça demande de fait quand même un minimum de capacité technique, de maintien, de surveillance et de présentiel régulier. Uniquement ça. Donc, en règle générale, des radios de type classique, donc en flux ou en FM, elles fonctionnent très difficilement sans personnes à temps plein. Et c'est très compliqué de trouver des personnes à temps plein qui ne sont pas à payer, vous voyez, rapport au fait qu'ils doivent manger à un moment. 5 salariés pour une radio associative, c'est quand même plutôt gros. En règle générale, les radios associatives, elles fonctionnent plutôt avec 2 ou 3 salariés. Et je ne dis pas ça du tout pour diminuer l'impact qu'il va y avoir sur les emplois d'avenir, parce qu'en fait, des radios associatives, il y en a énormément. Il y a beaucoup de radios associatives et beaucoup de médias associatifs en règle générale qui sont très consommatrices d'emplois aidés qui vont du coup devoir baisser très fortement l'employabilité qu'elles ont et le nombre, la participation qu'elles utilisent, qu'elles ont sur le marché de l'emploi, grosso modo. Il y a pas mal de gens au chômage, hein, tout bêtement, une fois qu'on aura viré les emplois aidés. Un autre point, c'est que l'augmentation de l'utilisation des emplois aidés, elle est liée très bêtement à une diminution des subventions et des modes de financement dits de fonctionnement. C'est-à-dire qu'historiquement, à la fin des années 80, à partir du moment où il y a une libéralisation des ondes et qu'il y a une augmentation de la présence des radios associatives, la moitié sont mortes parce que les radios libres à vocation commerciale ont grosso modo fait leur affaire, passé de la publicité, racheté des antennes et tué une partie de la diffusion des petites communautés de radios associatives libres à l'ancienne, comme on aime bien en parler.
Et ont d'ailleurs quitté justement le statut de radio associative. Ils sont passés dans les radios commerciales.
Oui, c'était des radios libres. Quand on dit radio libre, il y avait dedans des radios à vocation associative et des radios à vocation commerciale. Tout ça pour dire que dans ce contexte-là, les radios associatives se sont associées pour négocier avec l'État une subvention de fonctionnement qui est bien connue, qui s'appelle le FSER, le Fonds de soutien à l'émission radiophonique, qui est procuré par le Enfin, tu tiens l'expression radiophonique à l'émission, le FSER. On parle du FSER à qui mieux mieux dans nos petites instances où on s'interroge sur comment on va payer nos salariés. Voilà, qui est une subvention du ministère. C'est des subventions et des types de soutien qui sont, qui ont été abondés pendant un certain temps par pas mal d'entités publiques, qui maintenant le font de moins en moins. Ça veut dire que nous, on doit aussi travailler, et c'est un mouvement qu'on retrouve dans beaucoup, une grosse partie du monde associatif, à faire du financement par projet, ce qui implique une chasse un peu constante. Ce qui implique de fait un besoin de présentiel et de masse salariale, ce qui se mord un petit peu la queue, et ce qui explique que la fin des emplois aidés, ça fait un peu double peine en termes d'investissement ou des pouvoirs publics ou des pouvoirs philanthropico-associativos, ONGRs, et qu'on va non seulement avoir du mal à financer nos salariés, et en plus perdre de la ressource qui nous fait gagner de l'argent sur le modèle consacré comme nouveau et efficace.
Olivier.
Oui, c'était juste une remarque pour préciser que le SFR à une époque était une taxe parafiscale, c'est-à-dire que c'était une taxe prélevée sur la publicité des radios et télé commerciales, et qu'en fait elle ne passait pas dans le budget de l'État, donc elle était indolore, et les députés ne mettaient pas leur nez dedans, et donc il y avait une répartition, il suffisait d'augmenter un tout petit peu. Or elle a été supprimée pour deux raisons, les députés, surtout les sénateurs, voulaient contrôler le contenu des radios associatives, et il y en a une deuxième, c'est que l'Europe a déclaré cette subvention en fait illégale par rapport au droit de la concurrence, pour le nom d'une concurrence libre et non faussée. Donc on se retrouve effectivement avec une subvention qui devient une subvention administrative et qui est revue régulièrement à la baisse pour des raisons évidemment budgétaires, et qui, dans une espèce de cycle, si vous voulez, où le budget des radios baisse et donc la subvention qui leur est accordée baisse. Et de fait, hein, on est dans une espèce de course régulière en fait à la subvention. Donc nous à FPP on s'était jamais trop préoccupé de ça. Bon voilà, on déléguait ça, et aujourd'hui, alors qu'on est tout à fait contre le procédé, hein, si vous voulez, qui consiste à aller, on se retrouve pris dans des projets de subvention qui tendent un peu à orienter d'autres lignes éditoriales, c'est-à-dire des projets sur le racisme.
Parce qu'en fait le FSER il fonctionne avec des points, si j'ai bien compris. Alors c'est... il faut remplir ces points, c'est bien ça?
Alors il y a une subvention automatique en fonction du budget, il y a un complément avec quelques points, mais en réalité ça joue sur quelques milliers d'euros, enfin c'est pas grand chose, c'est plus les appels à projets qui deviennent extrêmement contraignants pour la radio.
En tout cas,
je voulais faire une autre remarque, c'est qu'en fait le coût économique de des radios associatives est nul en fait, quand on y réfléchit. Il est d'accord, il représente un certain budget, mais si vous cumulez toutes les heures de travail des bénévoles, et quelle que soit la façon dont on les compte, c'est-à-dire en dessous du SMIC, au-dessus du SMIC, à FPP on a fait le calcul, et bien finalement les bénévoles travaillent évidemment trois fois plus que les permanents, et si on les comptait, si on faisait de la comptabilité, bien évidemment la radio coûterait trois fois plus cher. Donc l'intérêt public en fait des radios associatives n'est pas à démontrer.
En tout cas, cette chasse aux subventions touche pas mal de radios. On a eu au téléphone Grégoire Souchet. Grégoire Souchet, il a réalisé un documentaire pour Arte Radio qui s'appelle « Je quitte ma radio », où il raconte en fait sa fatigue. Donc là, on va écouter le coup de fil qu'on a échangé.
Ma première question, c'est qu'est-ce que vous faites maintenant ?
Eh ben, je suis toujours journaliste indépendant. Simplement, j'ai arrêté la radio depuis que j'ai quitté ma radio. Au début de l'année 2017. Voilà, donc je travaille pour des journaux en ligne et de la presse d'investigation à Toulouse.
Vous avez travaillé pendant quelques temps à Radio Centrafrique. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette expérience ?
En fait, moi, ça fait très longtemps que je tournais autour des radios libres. J'ai fait mes premiers pas de journaliste à l'antenne de Radio Centrafrique quand j'étais au lycée, pendant le mouvement anti-CPE. J'ai fait un contrat aidé dans une radio libre à Toulouse, et Radio Centrafrique, c'était un peu un graal, un rêve pour moi, parce que justement c'était pro et en même temps on pouvait déconner et en même temps il y avait du contenu de qualité. Voilà, il y avait un peu tout ce que j'aimais. Et donc quand j'ai pu avoir un poste de journaliste là-bas, bah, je me suis dit « ah bah, chouette, c'est génial, ça me permettait de revenir dans ma région d'origine ». Et effectivement, ça a été super, c'était une excellente expérience, avec des reportages que j'ai pu faire de fond, une émission hebdomadaire avec de l'actu, on avait du temps pour faire du montage, pour faire un peu d'investigation aussi. Et donc vraiment, ça a été incroyable. Et puis, bah, petit à petit, ça s'est dégradé.
Donc ça, vous avez voulu en parler pour Arte Radio ?
Arte Radio, c'est le coup de chance, on va dire. J'ai été au festival Longueur d'onde à Brest il y a un an. Et on va dire que j'ai, au culot, je suis allé voir le responsable d'Arte Radio. Je lui ai dit, bah voilà, j'aimerais faire un truc sur les radios libres. Ça l'a botté. Et puis du coup, on est parti sur ce format-là avec du storytelling, c'est-à-dire du récit à la première personne. Et puis, qu'est-ce que je voulais raconter? D'une part, ça me permettait de faire un peu le point, puisque ça a été écrit en mars et en avril, alors que j'étais parti en février. Donc c'était encore un moment où j'étais plein d'émotions, on va dire, parce que j'étais triste de partir, mais en même temps, je ne pouvais plus rester. Et alors du coup, par effet de calendrier, le docu est sorti une semaine avant l'annonce de la suppression des contrats aidés. Donc bon, ben voilà, les difficultés sont là. Dans ma radio aujourd'hui, il n'y a plus que 2 postes et demi. On était 5 à l'époque. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et puis, c'était aussi dire, radio libre devenue radio associative, est-ce que ces subventions, est-ce que cette course au dossier, notamment le fonds de soutien, l'expression radiophonique, est-ce que ça ne nous entrave pas justement notre liberté, notre richesse et notre manière de vivre? Et finalement, est-ce que pour préserver des postes, on ne se range pas un petit peu? Des origines.
Alors, Cause Commune, vous avez choisi un autre modèle économique, du coup, que ces contrats aidés que vous n'aurez pas. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous fonctionnez?
L'idée, c'est de fonctionner de manière un peu naïve en se disant, bon, clairement, on n'a pas envie de fonctionner avec des revenus publicitaires. C'est-à-dire que Cause Commune, on a envie de mettre des réclames. Mais on n'a pas envie de mettre de publicité. On a envie de mettre des moments chaque heure où en fait les gens peuvent poster sur le site des annonces, mais qui seraient plutôt des annonces citoyennes ou des annonces des gens qui ont une annonce à faire passer à la place de la publicité. Donc ça, forcément, ça ne renforce pas le modèle économique de la radio. On avait pas non plus envie de dépendre de subventions parce que on a bien compris que c'est pas forcément le futur. Et que ça aliène aussi un peu l'indépendance d'un média de dépendre de...
Sur la question de l'indépendance et des dépendances aux subventions, l'indépendance dans la liberté d'expression, c'est souvent une critique qu'on fait. On touche des subventions, on ne peut pas tout dire. Est-ce que concrètement, c'est vrai?
Alors,
peut-être, parce que du coup, laisser intervenir les radios qui sont subventionnées,
oui,
Olivier?
Absolument pas. C'est-à-dire que le SFR était bien conçu au départ pour qu'on ne puisse pas intervenir sur le contenu à travers son mode de financement, puisque ça a été prévu en 1981. Et donc, on peut estimer que non, jusqu'à maintenant non, mais le fait effectivement de plus en plus mettre toutes les associations dans des démarches d'appel à projet oriente leur action. Ce qui ne nous empêche pas, nous, en tout cas, de ne jamais nous censurer et de répondre comme on peut aux subventions.
Alors, juste qu'on s'entende bien, quand je parlais d'indépendance, je ne disais pas que les radios qui dépendent de subventions n'ont pas d'indépendance. Je dis juste qu'elles dépendent de ces subventions. Et que du coup, forcément, dès qu'on coupe ces subventions, ça les met dans une situation délicate.
En fait, le truc, c'est être dépendant d'une contrainte qui est externe par rapport à ton développement. C'est-à-dire que tu dois construire tes budgets par rapport à une subvention que tu as, mais que tu n'auras peut-être pas l'année suivante. Et en fait, c'est ça le truc. Et en fait, nous, ce dont on avait envie quand on a créé l'association Libratoire, qui n'a pas été créée pour faire une radio FM, on l'a bien compris. C'était de durer, hein. C'était dans 10 ans, Libratoire devait continuer d'exister avec son projet social, etc. Et donc du coup, on n'a pas pensé notre modèle budgétaire comme dépendant d'une contrainte qui nous était extérieure, en fait.
Fanny, Campus, c'est une radio-école, donc l'idée, c'est aussi d'avoir les moyens pour former les gens. Est-ce que tu penses concrètement que sans subvention, en fait, Campus pourrait arriver au niveau où elle est aujourd'hui?
En l'état, non, je pense pas. Après, si un jour toutes les subventions disparaissent, on trouvera d'autres solutions. Hein. En l'état, nous, notre technique pour le moment, c'est principalement de jongler entre différentes sources de revenus, principalement publiques, hein, en s'appuyant sur un petit nombre de partenariats très forts qu'on a avec la mairie de Paris, et beaucoup avec les universités et les CROUS, c'est-à-dire qu'on intervient énormément en université. Donc c'est dans ce sens-là qu'on va avoir un certain nombre de sécurité financière, ça plus les feux emploi aidés, c'était le cas avant, mais là c'est un peu moins... Bon bref, on n'en parle pas. Avec cette idée qu'on a comme ça deux jambes, trois jambes, qui nous permettent d'être un peu clair sur... Voilà, pareil, on sait que la région nous aidera parce qu'on a historiquement... une certaine complicité sur voilà, ils respectent notre projet sans avoir jamais eu d'influence sur notre ligne éditoriale, ce qui est extrêmement appréciable et voire des fois un peu inattendu. On a déjà eu des cas où dans une émission on recevait des représentants de la mairie qui ressortaient un peu étonnés du niveau de critique de l'interview, un peu à la limite de la vexation, mais bon joueur, en me disant bon d'accord, grosso modo. Et pour qu'on suive tout le reste, pour la partie précaire, eh ben on jongle de façon un peu régulière avec les opportunités. C'est pour ça que je disais qu'il y a un sujet de chasse à la sub, qui est consommatrice d'énergie, qu'on va chercher sur la fondation privée, la fondation publique, de l'appel à projet, de voilà.
Moi, je veux juste lancer une chose, et c'est une réflexion sur laquelle on se pose souvent la question. Ces subventions, qu'elles soient d'État ou de région, etc., à mon sens, c'est un devoir. C'est-à-dire que c'est les autorités, hein, les autorités sur lesquelles, effectivement, il y a un certain nombre de choses de la société qui fonctionnent. Et si ces autorités-là ne préservent pas et ne garantissent pas la continuité de cette pluralité, là, on tombe dans quelque chose où, effectivement, on va tomber dans le privé, etc., et ainsi de suite. Donc, il y a quelque chose qui... quelque part, c'est de l'ordre d'un dû et d'un devoir. C'est-à-dire, le devoir d'État est d'assurer la pluralité sur le territoire
des différentes, etc.
Et il doit le protéger. Ça, il doit le protéger. Alors, je vais employer des grands mots qui sont peut-être discutables et autres, mais c'est un devoir de démocratie. C'est-à-dire qu'à partir de à partir du moment où l'État va décider que le FSER, le Fonds de soutien à l'expression radiophonique, qui est la subvention qui permet de faire fonctionner ces petites entités avec des voix qui ne sont pas les voix habituelles, etc., et là, on va dire, là, ça va commencer à craindre. Et l'État, il ne peut pas se permettre de couper ces choses-là. C'est lui qui est garant de cette diversité, pas à 100%, bien évidemment, je veux bien l'entendre, mais jusqu'à un certain point, c'est-à-dire qu'il doit continuer à trouver les moyens de faire vivre ça, parce que c'est aussi un moyen d'établir aussi un équilibre dans un pays. Et voilà, je m'arrête là.
Un dernier mot, juste tout bêtement, l'État, il est pas stupide. On fait une partie, on fait des boulots d'intérêt public, voire un peu de service public. Hein. En l'État, la formation des, pour notre cas au moins, la formation des étudiants dans les universités, l'animation de liens sociaux, la création d'accompagnement individuel, de formation des jeunes. C'est un peu le débat qu'on a globalement sur les associations, c'est qu'elles font des travaux d'utilité publique qui ont vocation à être financés par une monnaie publique aussi, il me semble.
Un dernier mot.
Non, mais en fait,
c'est très dangereux.
Non, mais je suis complètement
dans
d'accord.
Une certaine mesure.
Marion, tu pars du principe que tu vas assurer ton fonctionnement par l'injection de fonds privés. C'est pas du tout le modèle qu'on a envie de développer nous.
J'ai bien compris.
Ouais.
Non, mais c'est ce qui nous incite.
Oui, oui, non,
c'est,
mais j'entends bien.
Ça a été fortement
incité. Oui, alors, bah, le mot
de la fin. Ce que je voulais dire, juste, c'est que
on va laisser parler Fréquence Paris Pluriel.
Je termine. Et après, je te laisse parole. Sous le gouvernement Hollande, donc l'ancien gouvernement, il y a eu des circulaires où c'était net et précis, où ils assignaient les associations à se retourner vers les financements privés. Puisque, en gros, ils se désengageaient. Donc, privé, privé. Donc, voilà. Et ça, on
allez. Non, mais qu'on t'incite.
On continue le débat dans le bar. Vous pouvez.
Non, mais qu'on t'incite. Enfin, que. Ok, c'est fini.
Là, c'est fini.
Ok, vive. Alors, moi, j'ai un mot à dire. Vive le logiciel libre.
Ok, ce sera le mot de la fin, pourquoi pas. Ouais. Je crois que cette émission est terminée.
La bande FM, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup Marion, Olivier, Ludo, Paul, Fanny. Merci à Hugolin et Mickaël de l'avoir réalisé. Merci à Elsa. Et merci au Bar Commun de nous avoir accueillis.
Merci à toi, Léa. Et on retrouvera cette émission avec plein de choses en plus sur le site de radiocampusparis.org. Bonne soirée.